Et nous lisons aujourd'hui un des trois textes proposés qui se trouve dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 12, les versets 13 à 21. Quelqu'un dans la foule dit à Jésus, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi mon héritage. » Jésus lui répondit, « Mon ami, qui m'a établi pour juger vos affaires ou pour partager vos biens ?» Puis il dit à tous, « Attention, gardez-vous de tout amour des richesses, car la vie d'une personne ne dépend pas de ses biens, même si elle est très riche. » Il leur raconta alors une parabole. Un riche avait des terres qui lui rapportèrent de bonnes récoltes. Il réfléchissait et se demandait, « Que vais-je faire ? Je n'ai pas de place où amasser toutes mes récoltes. » Puis il ajouta, « Voici ce que je vais faire, je démolirai mes greniers, j'en construirai de plus grands, j'y amasserai tout mon blé et mes autres biens. Ensuite, je me dirai à moi-même, « Mon cher, tu as des biens en abondance. Pour de nombreuses années, repose-toi, mange, bois et jouis de la vie. » Mais Dieu lui dit, « Insensé, cette nuit même, tu devras rendre ta vie. » Et alors, pour qui sera tout ce que tu as accumulé ? Jésus ajouta, « Ainsi en est-il de la personne qui amasse des richesses pour elle-même, mais qui n'est pas riche aux yeux de Dieu. » C'est un exercice bien plaisant de voir derrière un texte autre chose que ce qu'il nous dit. Ça passe, ça permet de passer le temps, mais ça s'appelle l'herméneutique quand on aime les gros mots. Le titre généralement donné à ce passage est un petit peu sévère. Je ne vous ai pas lu celui-ci, mais si vous regardez dans vos versions de la Bible, vous trouverez, je pense, quelque chose d'assez comparable. On nous appelle ce passage, cette parabole, la parabole du riche insensé. Son manque de sagesse est souligné, même s'il a l'avoir, il n'a pas la sagesse. Mais bien plus que sa richesse, c'est sur la question de la durée de la vie, son caractère prévisible ou non, et de ce que l'on fait au fond du temps imparti que ce texte nous parle aussi, et peut-être principalement. Et sur tous ces sujets, en savons-nous plus que lui ? Quelqu'un dans le monde, toutes époques confondues, aurait-il pu répondre ou agir sagement dans cette même situation ? C'est d'autant plus sévère que cet homme riche, on peut le supposer, est content d'avoir ce qu'il a. Qui n'est pas content d'avoir ce qu'il ou ce qu'elle a ? Pour en profiter, il n'a pas travaillé pour rien, très bien. Pourquoi ne pourrait-on pas supposer que cet homme riche n'avait pas construit tous ses hangars, un peu plus grands que les autres et toujours plus grands, non pas pour engranger ses récoltes et les laisser pourrir, comme un oncle Picsou de la céréale, uniquement pour le plaisir d'accumuler, même si c'est ce qui semble lui être reproché à la fin du texte. Il semble à première vue engranger tout de même pour la redistribution, il ne doit pas manger tout ça, cet homme-là. Il donne l'impression de faire des réserves pour les éventuelles années de vache maigre aussi. Il a l'air compétent, sérieux, responsable et prévoyant. Il ne manquerait plus qu'il s'habille avec une dominante de bleu foncé ou de gris, et il pourrait passer pour protestant, le pauvre homme. Enfin non, puisque c'est un homme riche. D'ailleurs, à part un pull moutarde, le pull rouge d'Éric, le petit gilet corail de Marlise, hein, c'est corail, hein, n'est-ce pas ? Bon, je ne me suis pas trompé beaucoup, finalement. Pauvre homme que cet homme riche. Blague à part, qu'aurions-nous fait à sa place ? Parce que nous sommes aussi, nous, conscients de nos missions, nous accumulons beaucoup de choses. Une église est aussi un lieu où on engrange des choses, même s'il faut aussi les redistribuer, mais il faut bien être riche pour être généreux, n'est-ce pas ? Nous n'en savons pas plus que lui sur le sujet, au sujet de ce qui nous attend. Ça, c'est tout à fait sûr, du jour, de l'heure, du déroulement de la vie, de sa fin, de ce qui suit éventuellement, de l'aspect, de tout ce que cela peut prendre. Nous n'en savons rien. Et c'est justement pour ça que nous essayons de compenser cette ignorance en essayant d'être prévoyants. C'est justement pour ça que nous souscrivons toutes sortes de contrats d'assurance. C'est pour ça que nous avons inventé les calculs de probabilité, les prévisions météo à 10 jours, pour essayer de nous tromper un peu moins. Pourquoi traiter de fou quelqu'un qui fait ce qu'il peut ? C'est ce qui me choque, en tout cas quand je lis ce passage, même s'il doit bien y avoir quelque chose à lui reprocher, j'y viens. Cette histoire fait ressortir les différentes manières d'envisager la vie, qui se ramène peut-être à deux grandes orientations. Et là, évidemment, je vais être un peu brutal, je vais schématiser. Je laisse de côté le clivage classique entre optimiste et pessimiste, qui, je crois, n'est pas opérant ici. L'homme qui construit des hangars pour se protéger lui-même ou pour protéger autrui, qui fait cela parce qu'il nourrit les autres, n'est pas un tristounet qui a baissé les bras en pleurnichant. Il n'a pas le temps, il a du travail. Donc ce n'est pas un pessimiste. Écartons ce carrefour-là. Les deux grandes orientations qui se présentent à nous pourraient se décrire comme suit. Un carrefour, peut-être, où il faut se décider d'un côté, pour un côté ou pour l'autre. D'un côté, vous avez une vie, je schématise là encore, je vais faire dans le brutal, une vie balisée par les sécurités que nous choisissons et qui renforce notre envie d'avancer parce qu'on se sent bien, on se sent en sécurité, encadré, tenu. Et de l'autre côté, une trajectoire confiante, dépouillée de l'obsession de savoir ce qui vient après. Voilà, on aurait à choisir entre ça, entre ces deux options-là. Mais évidemment, c'est une caricature, et comme toutes les caricatures, ça ne fonctionne pas. C'est malheureusement le risque que fait courir l'image que j'ai choisie. Elle donne l'illusion d'une alternative et d'un choix radical. Mais en réalité, aucune trajectoire de vie ne ressemble à ça. Nous avons, et l'une et l'autre, tressées, mêlées dans nos méandres sur une seule et même trajectoire, qu'elle soit rectiligne ou pas, d'ailleurs. Mais tout est mêlé dedans. En réalité, les choix que nous faisons ne nous interdisent jamais de revenir en arrière. Les bifurcations fréquentes n'éliminent pas les possibilités laissées de côté pendant un temps. Nous les retrouvons un jour ou l'autre devant nous. Elles reviennent avec entêtement. Donc tout cela est évidemment plus compliqué. Il n'y a pas d'un côté les fonceurs confiants et de l'autre côté les trouillards rabougris, quelle que soit la couleur de leurs vêtements. L'histoire du riche insensé, s'il faut continuer à l'appeler comme ça, et quelle que soit lui alors la couleur de son vêtement, nous dit quelque chose d'important sur la manière de gérer nos affaires dans l'ici et maintenant. Tant qu'elle concerne ses affaires, le présent et l'avenir proche. Notre myopie naturelle, d'un point de vue spirituel en tout cas, évidemment, je ne parle pas de notre vue, mais de notre relation à Dieu, nous interdit de voir plus loin. Nous maîtrisons plus ou moins bien le présent, ça nous le savons. Nous entrevoyons à peine l'avenir proche, mais avec déjà des difficultés d'accommodation de la vue, et puis au-delà, alors tout est flou. La myopie, le domaine dans lequel nous sommes encore compétents, à peu près, est au fond assez réduit, mais il nous conduit à un examen sans complaisance. Tu ne pourras peut-être pas te mêler de ce qui est plus loin, parce que c'est hors de portée, mais ça, tu es attendu au tournant. Comment avons-nous répondu aux sollicitations de la vie ? Comment avons-nous mis en valeur ce qui doit être distribué et non pas stocké ? C'est bien une question de valorisation de certaines richesses, une certaine forme de sagesse qui doit être dépensée, dilapidée, plutôt que gardée pour soi. Pourquoi cet homme riche est-il mis en cause par le regard que Jésus porte sur ce qu'il fait, plus que sur sa personne d'ailleurs ? C'est pas sa personne qui est attaquée, c'est ce qu'il fait. En s'attaquant à ce riche-là, nous sentons bien que, au-delà du personnage de l'histoire, Jésus nous met en cause pour une raison que nous ne comprenons pas encore à la simple lecture du texte. Il faut un peu de temps pour l'incorporer, se demander à quoi ça renvoie chez nous. Rassurez-vous, ce n'est ni aux richesses de ce personnage, ni aux nôtres que Jésus va s'en prendre. L'argent ne joue ici qu'un rôle tout à fait secondaire. Ce qui est mis en cause, c'est la valeur que nous donnons à la vie et de l'usage que nous en faisons. Jésus ne reproche pas à cet homme d'avoir amassé de l'argent ou du blé, ce qui revient au même. Il l'interroge sur ce qui a motivé son action en amassant sa fortune. En vue de quoi, pourquoi ? Sur un temps court, un temps long, mais ce temps t'appartient-il ? Et naturellement, c'est à chacun de nous qu'il s'adresse. Qu'est-ce qui a motivé son action ? Le plus curieux, c'est que Jésus, qui ne lui laisse même pas le temps de répondre, hein, on n'a pas la réponse de cet homme dans le texte, l'accable sans attendre par l'annonce de sa mort prochaine. Si vous voulez propulser quelqu'un dans la vie avec une belle énergie, il ne faut pas lui parler, évidemment, des échéances ou des questions qui fâchent. Hein, c'est pas ce qui lui donne le plus d'élan. Curieuse manière de le mobiliser en lui mettant en avant comme un butoir le jour et l'heure qui l'arrêteront, bien sûr. L'homme riche ne répond pas, c'est peut-être parce que notre propre réponse est également attendue. C'est bien que certains personnages bibliques se taisent, comme ça nous pouvons parler à leur place. La Bible sert aussi à ça, apparemment. Et notre vie aussi a besoin de cet espace libre pour se dire entre la question qui lance le débat et le jugement d'ensemble qui le clôt. Entre les deux, eh bien, il y a nos arguments, convaincants ou pas. Être prévoyant, au moins pour les siens, est-ce condamnable ? Comme il ne fait pas tourner cet homme-là l'exploitation tout seul, hein, n'est pas un hangar à logistique avec deux personnes et trois boutons à manier, c'est plus compliqué que ça, une exploitation agricole, il a certainement dû recruter du personnel, des collaborateurs, si vous préférez, créer des emplois, est-ce condamnable, etc., etc. Nous pourrions déployer tous ces arguments. Leur point commun, c'est que même si l'action de cet homme profite à d'autres, et c'est tant mieux, ce n'est pas sur ce point que Jésus exerce sa critique. Il l'interpelle sur le cœur même de sa personne, ce qui est inhabituel chez Jésus, ce qui est au centre, cet élément vital, central, en nous, lié au principe même de notre vie, ce qui la guide, ce qui fait que nous faisons ce que nous faisons. Au nom de quoi ou de qui faisons-nous ce que nous faisons ? En notre nom propre ? Pour des échéances que nous arrivons, nous, avec notre myopie, à discerner ? Ou parce que nous sommes capables de faire confiance à quelqu'un d'autre, parce que nous ne pouvons pas viser plus loin, alors que ce quelqu'un, lui, le peut ? Telle est la question de ce texte. Cet élément de vie qui est en nous fonctionne pour Jésus, c'est pour ça qu'il interpelle cet homme, comme un outil de contrôle. Et c'est cela qu'il lui reproche, c'est là-dessus qu'il met le doigt. Est-ce que tu arriveras à tout maîtriser en t'y prenant comme tu t'y prends ? C'est en nous interrogeant nous-mêmes sur ce qui nous met en mouvement que nous découvrons vraiment qui nous sommes. Si Jésus insiste sur l'incertitude de la vie, sur l'impossibilité de voir loin pour mieux dire ces choses-là, c'est parce qu'il veut que cet homme comprenne, lui qui a déjà tout sauf ça, qu'il y a des choses qui nous échappent et que par conséquent, ce qui nous revient en propre, c'est une préoccupation pour le présent, là, tout de suite, maintenant, et éventuellement pour un avenir proche où notre action est maîtrisable. Éventuellement. Voir plus loin. Penser que nous sommes maîtres de ce plus loin, c'est quitter le seul terrain où nous sommes compétents. Et surtout, le seul terrain où nous sommes attendus. Le reste ne nous appartient pas. Jésus s'attache à porter son regard sur nos vies comme il regarde cet homme riche, alors que ses vies ne sont pas encore terminées. Ce qui importe pour lui, c'est de nous questionner, c'est que nous arrivions, nous, plutôt, à nous questionner sur nous-mêmes, plutôt que de nous affairer en craignant confusément quelque chose qui vient et qui, en général, nous fait peur. Le flou nous fait peur, le jugement final, l'échéance, le coup près nous fait peur. Détache tes yeux de ces considérations et reviens sur ce à quoi je t'ai appelé et fais-le maintenant. Jésus nous renvoie à nous-mêmes et à la façon dont nous savons prendre nos responsabilités, nous qui sommes si souvent habillés en bleu marine, pour que les forces de vie qui sont en nous soient mobilisées. Il y a là-dedans non pas une définition comme celle qu'on trouverait dans le dictionnaire, mais une description assez imagée de ce qu'est la valeur de notre vie telle qu'elle est montrée du doigt. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas valable jusqu'au bout, mais nous ne savons pas mesurer ce que nous serons capables de faire tout le long de notre vie. Mais quand nous sommes saisis par un appel que nous savons ce que nous avons à faire et que nous le faisons, alors la valeur de notre vie se dit à ce moment-là. Elle est appréciée en fonction de nos capacités à mettre en action un potentiel qui se déclenche comme ça, tout d'un coup, pas en cherchant à nous protéger par des sécurités relatives qui ne changeront sans doute rien. Cette nuit même, ta vie te sera redemandée. Quant au reste, il y a fort à parier que le jugement de Dieu sur nous-mêmes soit moins sévère que le nôtre. C'est une bonne nouvelle, c'est peut-être ça la grâce d'ailleurs. Ce qui est important, ce n'est pas de vivre en ayant peur, en ayant la crainte du jugement de quelqu'un d'autre, sinon la grâce n'existerait pas et nous ne serions pas là où nous aurions tort d'être là. Ce qui compte, c'est le jugement que nous portons sur nous-mêmes quand il nous reste encore assez de temps pour agir. Le secret de notre vie, c'est celui-là, et celui-là nous appartient. Amen.